Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu.
Tout ici, Jabodima.
Qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Je vais aborder avec vous un sujet qui est toujours le sujet un tout petit peu gênant dans les églises, parfois en France, au moment du culte, et vous avez tout de suite compris que je vais parler du sujet des offrandes, du sujet des finances. C'est un sujet qui gêne dans les moments de culte en France, mais moi je voudrais vous dire, vous savez, je viens aussi, j'ai grandi aussi dans un pays catholique avec une influence catholique. Alors, l'argent est toujours présent au cœur de nos vies tous les jours, mais on entretient avec l'argent, avec les richesses, une relation un peu ambiguë. Moi-même, si vous voulez, j'ai grandi avec un côté de ma famille qui était catholique, donc on me disait, quand tu vas à la messe, tu mets ta pièce dans la quête, à la corbeille. Je mettais la pièce, et j'avais un grand-père qui disait, de toute façon, ces curés, ils s'en mettent plein les poches, et tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est essayer de nous rouler. Puis on me racontait des histoires de pauvres veuves qui avaient été dépouillées par des curés abusifs, et moi, j'étais là, je leur donne, mais franchement, c'est des salauds qui essaient de nous abuser, qui essaient de nous... Et si vous voulez, c'est typiquement français, à ma façon de grandir. Donc, je vous parle ici à partir d'un terrain typiquement français dans lequel on verse nos offrandes le moins possible pour essayer de se faire rouler le moins possible en maudissant les gens qui reçoivent nos offrandes parce qu'on est sûr qu'ils essayent de nous tromper. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça dans mon cœur pendant si longtemps jusqu'à ce qu'un jour je me débarrasse de la messe et de toutes ces choses-là pour aller investir vraiment chez les anti-chrétiens, anti-croyants et là, en étudiant l'histoire de l'Église et tous les abus qu'il y a eu, je suis devenu rempli d'amertume et de révolte à l'égard du monde catholique, et donc de cette question d'argent, ce qui fait quand je suis devenu chrétien, j'entretenais avec l'argent une relation un peu bizarre. Comme tout le monde, j'en ai besoin, et comme tous les gens de ma génération à ce moment-là, j'ai aussi grandi dans une famille qui s'est embourgeoisée. L'argent était vraiment pour moi le symbole de la superficialité, le symbole du bonheur semblant. On fait semblant d'être heureux parce qu'on a de l'argent. Alors mes parents cherchaient à s'habiller de mieux en mieux. Moi, c'était de pire en pire, histoire de montrer que je me démarquais. Quand je suis devenu chrétien, j'étais sûr que Jésus était le chef des hippies et que lui-même était sûrement fauché. Et j'avais une fausse image de Jésus, une fausse relation à l'argent. Et le Seigneur a dû agir en moi pour restaurer ces choses-là et m'apprendre à voir l'argent comme lui le voit et à comprendre que l'argent fait partie totalement de l'adoration. D'ailleurs, il n'y a rien plus que le domaine de l'argent qui révèle là où est notre cœur. Et c'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Mais avant de le faire, je voudrais vraiment dire, je veux faire mal à quiconque ce matin. Je suis venu avec un message sur l'argent, mais un message gentil. D'accord ? Donc n'ayez pas peur, vous pouvez... Ne serrez pas vos fesses spécialement, vous pouvez être tranquille. Et je veux être là juste pour dire, je bénis Dieu pour cette église, pour les 10 ans ici, ou 9 ans, pour moi on est dans la 10e année, mais ça fait un peu plus de 9 ans que nous sommes à Montpellier. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est fait, pour ce bâtiment, et puis pour tout ce qui s'est fait, pour les miracles qui ont eu lieu. La construction de cette église est un miracle, et je bénis Dieu parce que ça s'est accompli. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes fidèles. Vous qui êtes fidèles depuis des années à donner vos dîmes au Seigneur, je bénis Dieu pour des personnes comme vous et sans vous, ce serait impossible que ce miracle arrive. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont déjà fait des offrandes exceptionnelles. À un moment donné, on a été amené plusieurs fois, quand il y avait des défis, des pas de foi à faire, ce qu'on appelait des Giving Day, Dia de Ofrenda pour notre ami Octavio, les jours des offrandes, les jours des dons comme aujourd'hui ou des mois, comme on rentre là dans un mois d'offrande spéciale. Je bénis Dieu pour ceux qui ont fait des offrandes tout à fait spéciales, presque surnaturelles, et qui ont fait des actes héroïques, donnant au-delà de ce qui était raisonnable, et qui ont vu la main de Dieu en retour. bénis Dieu pour les personnes comme vous qui ont eu le courage de le faire. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui, parmi nous, ont le don de générosité. Et il y en a. Et il y en a. Il y a des personnes, et on les nommera pas, tout simplement pour pas les embarrasser, mais il y a des personnes qui voient un besoin et qui arrivent en disant, ben, on a vu ce besoin, voilà, on fait le chèque, on veut payer nous-mêmes. On veut l'offrir. Et on veut même pas que ce soit connu, que ce soit nous qui fassions ces choses-là. Je bénis Dieu. Parce que cet écran a été payé comme ça, ou ce rideau de scène, un des deux, je sais plus ce qui a été payé. Parce que les tables qui sont dans le bar ont été payées comme ça. Et pour toutes ces choses-là, vraiment, mon cœur est rempli de reconnaissance envers le Seigneur, parce qu'il fait pour nous des choses merveilleuses. Et je le crois. Amen. Alors ce matin, on va juste partir sur ce premier message, et vous allez voir bientôt un petit reportage là-bas après, qui va dire ce que vous pensez aussi de l'argent. Moi, je vous ai dit, en tant que croyant, ce que j'en pensais, mais vous allez voir ce que vous aussi vous en pensez. J'ai à vous tous d'avoir participé à ça. Alors, on entend toutes sortes de belles choses dedans, sur la vision de l'Église. Certains ont une vision un peu plus utilitariste. Ben, je défends mon morceau, mon secteur, etc. Puis, d'autres ont une vision plus sanctifiante. J'ai besoin d'être... Oui, c'est bien de donner, parce qu'on a besoin d'être libéré, etc. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on regarde pourquoi est-ce qu'on dit que l'argent se tient au cœur de l'adoration bibliquement. Jésus nous a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En réalité, quand Jésus met ça, il est en train de parler de l'adoration. Seigneur, j'amène toute pensée captive de ton obéissance ce matin, et je te prie que dans ce moment, ton Esprit Saint vienne allumer nos cœurs et nous donner des cœurs purs, des cœurs d'adorateurs dans ce domaine aussi, au nom de Jésus. Amen. Dieu est la personne la plus riche de l'univers. Qui dit amen à ça? N'est-ce pas? Dieu est la personne la plus riche. C'est pour ça que Dieu n'est pas gêné avec la question de l'argent. Et l'argent se tient au cœur de l'adoration, parce que l'argent montre, comme un petit peu Rebecca le dit dans le reportage, là où se tient notre cœur, là où est notre trésor, là est notre cœur, là où se tient notre cœur, là est notre trésor. Dieu est la personne la plus riche. Il nous a dit, la terre et les richesses appartiennent à l'Éternel, psaume 24, 1. Si j'avais eu faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Psaume 65, 11. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. La version Louis II dit, tes pas versent l'abondance. Ça veut dire que là où on marche, là où le Seigneur marche, l'abondance tombe de ses poches. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Quand nous donnons nos dîmes, quand nous donnons financièrement comme ce matin, nous avons besoin de savoir que c'est Dieu qui nous donne et que nous recevons de sa main ce que nous lui offrons. Il est tellement riche qu'il nous donne. Les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Amen. C'est à Dieu qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Combien on a besoin de dire notre foi dans ce domaine-là. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent tout l'argent et tout l'or. Nulle part dans la Bible, on verrait que Dieu soit contre les richesses. Il est la personne la plus riche de l'univers, la plus généreuse. Il donne la nourriture avec abondance. Et vous savez ce que c'est la sainteté? Qui aurait une définition simple de la sainteté? Qui peut dire ça? La sainteté, c'est... Allez, faites des essais. Il n'y a pas de réponse fausse. À votre avis? C'est pas de péché? Une mise à part? La pureté? Sans limite? Se donner entièrement? Tout pour Dieu. Alors c'est vrai. Tout ce que vous dites là est vrai. La mienne, ma définition de la sainteté, c'est ressembler à Dieu. Plus nous ressemblons à Dieu, plus nous devenons saints. Eh bien, si Dieu lui-même est la personne la plus riche et la plus généreuse du monde, je me dis la sainteté, c'est de devenir comme Dieu. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse 5, 12, à lui, quand on loue le Seigneur, écoutez ceci, il disait d'une voix forte, j'ai rarement entendu ce genre de louange dans l'église, parce qu'on n'a pas intégré, quand je vous dis tout l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tout le monde dit Amen, dit Dieu est le plus riche, tout le monde dit Amen, ça c'est la foi théorique, la foi mangée, la foi qui est devenue réelle pour toi, ce qui est devenu chair, ce qui est devenu battement de ton cœur, c'est pas encore ça, parce qu'on n'entend pas Souvent, Apocalypse 5 dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, sagesse, honneur, gloire, bénédiction et richesse. À l'agneau de Dieu, la gloire, l'honneur, la bénédiction, la richesse. C'est rare qu'on entende louer le Seigneur pour sa richesse. Et pourtant, quand on dit, loue ton Dieu pour qui il est, c'est tellement rare. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas intégré le caractère de Dieu. C'est ce El Shaddai, le Dieu tout suffisant, le Dieu d'abondance, le Dieu de fécondité. Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit avec ses moyens, sa mesure à lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus nous enseigne que Dieu est un Père. Et les enseignements sur votre Père sait ce dont vous avez besoin. Votre Père nourrit les oiseaux. Votre Père fait pousser tout le pain de la terre, nous dit Jésus. Et il nous enseigne ici à faire confiance à un Dieu riche, à un Dieu généreux. Je vous le dis, mes amis, on a une foi théorique dans un Dieu riche. Nous n'avons pas encore cette foi qui est devenue conviction au-dedans de nous, parce que ça va changer quelque chose. Et j'aimerais bien que nous grandissions dans une nouvelle image de notre Dieu. Tout au long de ces 2 mois, nous avons dit ce que nous voulons, c'est grandir dans l'adoration, une nouvelle image de Dieu. Clé ne connaît pas encore Dieu comme le Dieu riche. Nous ne connaissons pas encore Jésus comme l'agneau à qui revient la richesse. Nous ne connaissons pas encore le Père comme quelqu'un qui fait tout pousser en abondance, comme quelqu'un quand il marche au milieu de nous, ses pas versent l'abondance. Et nous allons découvrir ce Dieu-là, et c'est ma prière pendant ce temps. À lui, la richesse, Apocalypse 5, 12. Maintenant, si l'argent se tient au cœur de l'adoration, il y a, on sait, un petit piège avec l'argent parfois. Et pourquoi vous ne pouvez servir Dieu et Mammon? Qui est ce Mammon? Alors pour comprendre qui est Mammon, il faut retourner dans Ézéchiel au chapitre 28, l'origine de Satan. Ce texte d'Ézéchiel nous donne l'origine de Lucifer qui est devenu Satan. Et il prend l'exemple d'un prince qui s'appelle le prince de Tyr, qui a tellement suivi la façon de fonctionner de Satan, qu'au départ il commence à parler d'un humain qu'il appelle le prince de Tyr, et rapidement il commence à lui dire « Tu étais en Éden, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, tu étais le chérubin protecteur. » Alors, ce chérubin protecteur, il est dit « Tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors, par ta grande sagesse, ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes les pierres précieuses, tu étais le chérubin protecteur aux ailes déployées, nous continue à dire ce passage d'Ézéchiel 28. Donc il s'agit de Lucifer, ce chérubin protecteur. Sa chute est venue, semble-t-il, à cause de l'abondance des richesses qu'il n'a pas su maîtriser. À cause de ses richesses, il est devenu orgueilleux et il s'est coupé de Dieu. Par la grandeur de ton commerce, par l'injustice de ton commerce, tu as profané les sanctuaires et je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc il s'agit vraiment de la chute de Lucifer qui est devenu Satan ici. Mais nous apprenons dans ce texte que Satan avait une grande partie des richesses. Il avait des pierres sur lui, de l'or, de l'argent, etc. Si vous voulez reprendre plus en détail ce texte d'Ézéchiel 28, faites-le et vous verrez que c'est réellement ce dont il s'agit ici. Quand les anges ont été déchus et séparés de Dieu, alors Satan a réorganisé son gouvernement et il a trouvé un esprit qui s'appelle Mammon. Et il a dit à Mammon, toi, tu vas être prince, non pas sur la France, non pas sur Montpellier, non pas sur les États-Unis, mais partout où l'argent va circuler, tu vas être prince. Et ta mission sera d'utiliser les richesses pour gagner le cœur des humains de façon à les détourner de Dieu. Ça, c'est ta mission. Utiliser les richesses, le manque ou le trop, mais tu les places dans une situation où leur cœur se détourne de Dieu. Soit tu les mets dans la misère et ils se révoltent contre Dieu, soit tu leur donnes une abondance que leur intégrité de cœur ne peut plus supporter, ce qui fait qu'ils pourront se passer de Dieu, mais tu utilises les richesses pour une chose, les détourner de Dieu. Par la pauvreté, par la richesse, peu importe, mais utilise ce domaine pour les séparer de Dieu. Et Mammon est donc cette puissance spirituelle qui exerce sa mission sur le domaine des richesses, qui vise une chose, détourner les humains de la dépendance de Dieu. C'est pourquoi, quand la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 5, aucun cupide, c'est-à-dire ceux qui aiment l'argent, d'une façon exagérée, ceux qui ont confiance en l'argent plutôt que confiance en Dieu, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, pourquoi idolâtre? Pourquoi l'argent nous ferait que quelqu'un peut être appelé idolâtre? Ben simplement parce que l'argent, derrière l'argent, il y a une puissance spirituelle. Notre relation à l'argent, c'est plus, ou l'attachement à l'argent, c'est plus qu'un défaut, c'est une idolâtrie. C'est une adoration. Et c'est pourquoi la question de l'argent se trouve au cœur de l'adoration. Quand on arrive au moment des dîmes ou des offrandes dans le culte, certains pensent que, ah mince, on passe du divin, du spirituel, à l'humain. On est en plein divin. On est en plein cœur de l'adoration. Parce que ce domaine des richesses parle plus fort de l'état de notre cœur que plein d'autres domaines, que tout autre domaine, on pourrait dire. L'attachement à l'argent révèle notre culte, notre adoration. C'est pourquoi l'idolâtrie ou la cupidité est appelée une idolâtrie ici, Colossiens 3, 5. La cupidité qui est une idolâtrie, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que Dieu peut te faire confiance au point de te rendre prospère? Est-ce que Dieu peut te faire confiance au point de te rendre riche? Eh oui, parce que vous savez, dans la pauvreté, Proverbe 30, verset 8, je crois, nous dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans la pauvreté, je m'attaque à mon Dieu, et de peur que dans la richesse, je me mette à oublier mon Dieu. » Mais je voudrais vous dire une chose, Dieu veut et a toujours voulu de tout temps que l'homme, que l'être humain soit riche. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu n'a pas créé le couple humain dans un environnement désertique, mais dans un environnement de grande abondance. Et Jésus nous dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et 3 Jean, verset 2, nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons pauvres. Dieu a créé les humains riches. Dieu nous veut riches. Mais Dieu peut-il te faire confiance au point de te rendre riche? Parce que l'argent est au cœur de la question d'adoration. Et nous entendons tant de personnes dire, mais, ah, si j'étais riche, hein, des chrétiens, si j'étais riche, tu verrais un peu ce que je donnerais à l'église, tu verrais un peu ce que je ferais pour le royaume de Dieu. Et le jour où ça vient, le cœur ne pouvait pas tenir là-dessus. Et c'est pourquoi je dis, Dieu veut te rendre riche. Mais c'est la question de ton cœur. Est-ce que Dieu peut te faire confiance au point de te rendre riche? Parce que Dieu voudrait que tu sois riche. Genèse 1, 28, il a donné domination sur toute l'œuvre de ses mains. Par la trahison de Dieu, l'être humain perd son héritage. Et donc, Satan vient vers Jésus, le Fils de l'homme, pour lui dire, tu sais, je te donnerai la gloire de ces royaumes, parce qu'elle m'a été livrée au jardin d'Éden par la chute. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Satan est prêt à rendre riche quiconque est prêt à lui offrir son adoration. Et tu sais, pour être adorateur de Satan, il suffit pas simplement de dire, oh Satan, je t'adore. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus fin que ça. C'est notre attitude de cœur avec l'argent peut tout simplement nous fermer à la dépendance de Dieu. Dieu, je sais que tu es vivant. C'est sympa que tu sois dans le décor, en toile de fond. Mais moi, je peux me débrouiller sans toi. Et ça, c'est un culte à Mammon, c'est-à-dire au prince spirituel de l'argent. Donc l'argent est une question capitale parce qu'il est l'enjeu d'une adoration et d'un conflit spirituel. Ça dépend ce que tu aimes. Hein. Ici, tu as un petit truc euro, je t'aime. Hein. Et ici, Jésus t'aime et veut t'attirer à lui. Et tu es l'humain qui est au milieu, l'enjeu d'un conflit spirituel. Et ton argent montre que mon argent, mon attitude, ma relation à l'argent montre que nous sommes dans un enjeu d'une question capitale, l'adoration par nos finances. C'est pourquoi nous croyons qu'une des marques de qualité financière, c'est aussi des offrandes généreuses, la libéralité. et que nous devons aussi grandir dans ce domaine de sainteté comme dans chacun des autres domaines. Derrière la possession des richesses se tient une adoration, un service spirituel. Jésus, bien sûr, a refusé de recevoir les richesses de Satan parce qu'il voulait des mains propres pour les lui donner. Jésus, peu importe la richesse qu'il avait, ce qui comptait plus que tout, c'était de qui venait cette richesse. Et Jésus a reçu toute richesse, Apocalypse 5, 12, à lui, à l'agneau de Dieu, la richesse. Tout appartient au Seigneur Jésus aujourd'hui, mais il ne voulait pas recevoir cette richesse de quelqu'un qui avait les mains sales, c'est-à-dire le diable. Et c'est là l'enjeu que nous avons chacun dans nos vies. Dieu veut nous rendre riches par ses chemins, par ses moyens. Mais ne soyons pas prêts à accepter toute richesse comme elle vient, parce que chaque fois que je reçois de l'argent, derrière toute circulation de l'argent que je reçois ou que je donne, il y a un acte d'adoration. L'enjeu est là. L'enjeu de cette question capitale se trouve sur l'adoration. Le choix n'est donc pas pour nous entre la pauvreté ou la richesse, mais entre Dieu ou Mammon. Le choix n'est pas pour nous autre chose qu'un état d'esprit à l'égard de l'argent. C'est quoi l'état d'esprit ? Comment tu sais si tu sers Mammon ? Jésus nous a dit, ne vous inquiétez, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que l'inquiétude est bien souvent une marque de notre service, de notre adoration à Mammon. Et là, il faut lutter. Qui a besoin de lutter contre l'inquiétude dans le domaine financier de temps en temps ? Vous avez levé le doigt parce que vous avez vu que j'ai levé le doigt, mais pas avant moi. Hein. Je ne vais pas vous demander la fraude, mais la fraude, c'est une des marques. C'est ça, cet état d'esprit. La convoitise, l'auto-gratification, ça veut dire c'est par mes mérites. Regarde un peu ce que j'ai fait dans mon travail. Vous savez, il y a quelqu'un qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, que j'ai connu aimant le Seigneur avec passion, et je le dis avec des larmes au fond de mon cœur, des sanglots qui sont au fond de mes entrailles quand je pense à lui, à cette personne, et qui au début était une personne qui était prête à faire n'importe quel travail parmi nous, et qui avait vraiment un dévouement, une adoration pour le Seigneur. Et puis, Dieu a pris le risque de le faire prospérer. Et j'avais un peu peur, parce que une de ses premières remarques, c'était, tu sais, désormais, on ne tartine plus notre pain avec la même confiture. Le jour où j'ai entendu cette phrase, j'ai dit, oups, toi t'es en danger. Et puis à un moment donné, alors qu'il avait suffisamment d'argent, on lui a proposé encore plus, et parti dans encore plus. Et puis c'était la débâcle dans sa vie. Il a mis par terre une famille, une vie, une foi, un avenir pour lui-même à servir dans une église heureuse et qui prospère. Il a peut-être prié, il a peut-être été là au moment où on semait pour voir ce que l'on voit aujourd'hui et ce qu'on va voir dans les années à venir. Mais l'argent a pour enjeu l'adoration, l'auto-gratification. Mais c'est par mes mérites. T'as vu ce que j'ai réussi à faire. Et c'est triste. L'inquiétude, la fraude, l'avarice, ça c'est des signes de cet état d'esprit. Par contre, la dépendance, la reconnaissance, ça c'est l'état d'esprit d'un cœur qui sert Dieu avec l'argent. Être grincheux, c'est pas la marque d'un cœur qui sert Dieu. Donc la reconnaissance, l'intégrité, la confiance, la générosité, ça c'est la marque d'un cœur qui adore Dieu. On va regarder rapidement ce que la Bible nous dit concernant l'argent. Presque tous les livres de l'Ancien Testament parlent des finances, de l'argent. Il nous est dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il nous est dit aussi que c'est lui le père de la dîme. Certains disent, mais la dîme est venue au moment de la loi. J'oserais jamais étaler mon ignorance biblique comme ça. 400 ans, c'est pas Abraham de la loi. Abraham a donné la dîme, Isaac a donné la dîme, Jacob a donné la dîme. Ces principes-là datent bien avant la loi. Néanmoins, toutes les prescriptions qui sont venues ensuite avec la loi, les prescriptions et les promesses de la loi, c'est-à-dire les commandements comme les promesses, nous parlent beaucoup de la question d'économie et d'argent. Quand vous étudiez un petit peu la loi, vous voyez que il est parlé des offrandes, des dîmes, des aumônes, etc., mais aussi le jubilé, ça veut dire la répartition des richesses, mais aussi le fait de prendre soin des plus pauvres, etc., etc. Un grand nombre de données économiques sont précisées dans les prescriptions de la loi, mais aussi des promesses. L'Éternel, Deutéronome 28, verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, et il enverra la bénédiction sur tout le travail de tes mains. Alors tu prêteras à des nations et tu n'emprunteras point. Et c'est vrai que les patriarches, comme la loi, comme les prophètes dans la Bible, nous montrent, nous parlent de l'argent abondamment. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quelle proportion de la Bible concerne la dimension de l'argent, mais c'est très important. Le message des prophètes, en gros, c'est Dieu vous avait dit de vivre dans l'abondance et la justice, la reconnaissance, mais vous vous êtes éloigné de ça et vous êtes en train de dire, c'est par nos mérites, on a réussi nous-mêmes, etc., etc. Alors Dieu envoie les prophètes et tous les prophètes parlent de cette question-là. Dieu vous a fait prospérer dans le pays promis, mais vous avez une attitude avec votre argent qui fait que, ah, ça c'est à moi, et que vous commencez à oublier Dieu et à ne plus le servir avec reconnaissance. Et le prophète Amos va être le prophète qui rappelle combien l'attachement aux richesses et l'exploitation du pauvre déplaisent à Dieu. La plupart des écrits des prophètes contiennent un quart à un tiers de leur message concernent le domaine des finances et rappellent l'adoration de Dieu par les finances, la reconnaissance et la pratique de la justice. Agée, Zacharie, Malachie vont rappeler le peuple à placer Dieu en premier dans leurs finances. Agée va dire, vous vous bâtissez des belles maisons, mais regardez l'état de la maison de Dieu. Vous êtes en train de penser à vous faire vos belles villas, et vous les avez, et c'est bien, Dieu vous bénit. Mais pourquoi la maison de Dieu est dans un tel état, alors que vos maisons sont l'objet de votre préoccupation majeure? Vous m'entendez à Montpellier en 2005? Vous m'entendez à Montpellier en 2005? Dieu dit, tant que ma maison n'est pas devenue la priorité, je ne pourrai pas bénir totalement le travail de vos mains. C'est ce qu'il dit dans le prophète Agée, et je crois que c'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Malachie nous rappelle ceci, depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de moi, revenez à moi. Vous dites, mais comment devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. Et vous dites, mais en quoi t'avons-nous volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous une malédiction, parce que tout ce peuple, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et je ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Vous savez, parfois, j'ouvre ma Bible, bien ouverte devant Dieu, je dis, Seigneur, je ne sais pas si de là-haut tu peux lire, mais en tout cas, si tu ne peux pas, je vais te lire ce que ta promesse a déclaré. Et tu as dit, mettez-moi à l'épreuve. Alors tu peux venir devant Dieu, pas avec un cœur contestataire, mais avec un cœur qui sait que Dieu est un Dieu de parole. Dieu est une personne de parole. Et tu peux dire, Seigneur, je vais prendre au sérieux ta parole. Et je te demande de la prendre au sérieux. C'est un contrat entre nous, ça s'appelle Nouvelle Alliance. Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. C'est une alliance, un contrat. Tu as dit ceci. La clause de l'alliance, c'est que si j'amène toutes les dîmes dans la maison de Dieu, tu vas éloigner celui qui menace. Tu vas ramener la bénédiction en abondance dans ma vie. Tu l'as dit, mon Dieu. Alors si la parole de Dieu est vraie, et nous croyons qu'elle est vraie, amen. Oh, vous avez manqué une occasion de dire qu'elle était vraie. C'est pas grave, vous en aurez une autre bientôt. Hein? Si la parole de Dieu est vraie, et elle est vraie, alléluia, à ce moment-là, je peux venir devant Dieu et dire, Seigneur, je vais pratiquer ces paroles-là. Un homme, en 1900, vous savez, il y a une grosse, qu'on appelle la grosse dépression, grande dépression aux États-Unis. Un homme aidait tous les pauvres. Et chaque fois qu'il les aidait pendant cette grande dépression, des gens qui avaient été dans le monde des affaires, etc., il leur posait la question suivante. Est-ce que, au temps où tu étais dans l'abondance, tu donnais ta dîme à Dieu? Et il dit, pas un de tous ceux qui avaient fait faillite pendant la période de grande dépression m'a répondu, oui, je donnais ma dîme à Dieu. Pour moi, ça m'a marqué. Oh, il y a 20 ans que j'ai lu cette histoire. Mais ça m'a marqué. De dire, au jour de la détresse, au jour de la famine, quelle assurance nous avons pour venir dire à Dieu, Seigneur, j'ai respecté la loi spirituelle qui dit que quand nous donnons nos dîmes au Seigneur, toi, de ton côté, tu t'engages à la bénédiction. Dieu est un Dieu de parole. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi, honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et c'est vrai, là, vous avez un petit garçon qui a son truc giving. Donc, lui aussi, il fait son giving day. Et il met sa dîme. Et quelle joie j'ai eu de voir nos enfants. Et je vous assure, enseignez même vos enfants sur leur argent de poche, sur les petits cadeaux qu'ils ont quand à l'anniversaire, ils ont un billet à Noël ou quoi. Mais enseignez-leur à donner leur dîme. Vous savez quoi? J'aimerais que parfois, les dîmes soient levées chez les enfants là-bas. Ils allaient dire, mais Philippe, t'es cupide. Mais non, je m'en fiche de la somme qui sera levée. Peut-être on va ramasser peut-être 5 euros les jours de prospérité au début. Mais je vous dis une chose, ça va former chez nos enfants une mentalité dans lesquels c'est pas là-bas c'est gratis, t'arrives ici tu payes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout au long, nous reconnaissons que tout ce que nous t'offrons, nous le recevons de ta main. Et peu à peu, que ce soit chez les enfants, chez les ados, c'est avec bonheur que nous venons donner notre dîme. Et je ne vous demande pas de donner une pièce à votre enfant pour qu'il ait quelque chose à donner le dimanche. Ne nous refaites pas le coup de la messe que j'ai subi. Simplement, sur ce que eux ont reçu, enseignez-leur à donner 10% au Seigneur et à tester que la bénédiction de Dieu vient. Honore le Seigneur avec les prémices de tes revenus et ça honore Dieu. Jésus est l'argent. Est-ce que vous savez que Jésus a parlé davantage de l'argent que du ciel dans les évangiles? En réalité, selon Charles Swindoll, qui est un théologien très respectable, un sixième des évangiles concerne les questions des finances et de la gestion. Un sixième, un tiers des paraboles concerne la question des finances et de la gestion. Alors quand parfois on me dit, oh là là, mais à clé, vous en parlez tous les dimanches. Oui, mais tu as vu comment Isabelle l'a bien fait ce matin en 3 minutes? On le fait courtement. Je te dis, si jamais tu avais suivi Jésus, laisse-moi te dire, ça aurait été mieux que ça encore. Ou pire, ça dépend comment tu le vis. Mais lui, c'était un tiers de ses paraboles concernaient cela. Un sixième des évangiles parle de l'argent. Jésus n'était jamais à court. Et il était même soutenu par des femmes aisées. Luc 8 nous dit qu'il y avait Suzanne, la femme de l'intendant, Marie de Magdala et plein d'autres femmes qui le soutenaient par leurs biens. Il avait une équipe de fundraising, de bailleurs de fonds autour de lui. Jésus avertit des dangers de l'argent. Et il dit, attention, prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent sur l'argent, les excès du manger et du boire. Puis Jésus, avec l'argent, n'était pas gêné. Quand les gens venaient donner, tout à l'heure on va avoir un moment pour l'offrande, le Giving Day qui commence, Jésus aurait fait ça. Moi je suis encore un peu timide, je me soigne, donc dans quelques temps j'espère ne pas l'être, mais Jésus aurait fait ça. Il aurait fait mettre une table ici, et il aurait regardé. C'est incroyable ce que Jésus faisait. Ou alors s'il n'avait pas des chrétiens, il serait tourné vers les disciples et il a dit, Christian, super léger ce qu'il a donné. Mais maître, t'as vu le chèque gras qu'il a fait? Oui, mais il est tellement riche dans la foi. Il est tellement riche que c'était tellement moins que... C'est qui est moins riche? Allez, on va jouer. On joue, on est en plein délire. Que Serge. Serge, qui est la petite veuve, qui est venue mettre sa petite pièce là-dedans. Et Jésus regardait et dit, oh, la veuve Serge, elle a vraiment donné davantage que le gros Christian qui est venu ici pour donner un chèque. Simplement, Jésus avait le toupet. Pourquoi? Parce que pour lui, l'argent, c'était pas l'argent. C'était le cœur qui comptait. C'était l'adoration qui comptait. Et c'était chaque fois un acte d'adoration qu'il regardait. Pour lui, c'était la même chose quand quelqu'un donnait superficiellement que quand quelqu'un priait du bout des lèvres lors d'un culte. Par contre, un jour, quand il voit cette femme dans Matthieu 26 qui vient répandre le parfum qu'elle a économisé toute sa vie pour le jour de son mariage, et maintenant elle croit, elle pense qu'elle ne se mariera pas, et elle a eu une vie très difficile, une vie probablement de prostituée, et elle vient, et au pied de Jésus, elle pleure et elle répand le parfum qu'elle avait économisé par toute une vie de galère, et elle répand ça sur Jésus pour dire, Seigneur, même si je n'ai plus un mari, j'ai eu tellement de vie de débauche, mais maintenant je sais une chose, je m'attache à toi totalement. Et les disciples disent, mais quelle perte, quel gaspillage, on aurait pu vendre tout ça, ça nous serait fait pas mal de soirées de michoui, puis on aurait donné la dîme aux pauvres. Hein. Mais Jésus dit, non, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais elle a compris quelque chose. Elle a compris qu'on ne donne pas juste aux pauvres, mais elle a compris que l'adoration implique l'offrande. Et elle est venue me donner quelque chose qui lui coûtait beaucoup. Et Jésus dit, on racontera dans le monde entier en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, comme un exemple d'adoration par les finances. Je vous dis, on n'a pas fini d'apprendre au niveau des finances. Mais qui sait si un jour, pendant qu'on est dans l'adoration, dans la louange, on n'attend même pas le moment où on présente les offrandes. Et juste par amour pour Dieu, tu fais un chèque et tu viens le poser sur l'estrade. Juste par amour pour le Seigneur. Et un gros chèque. Un chèque qui représente comme l'acte de cette femme ici. Pas un chèque de pitié, je ne te demande pas de le faire chaque semaine. Mais conduit par la passion que le Saint-Esprit peut mettre dans nos cœurs pour Jésus, comme cette femme l'a fait. Ce serait tellement merveilleux. Par sa vie et sa mort, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ça veut dire qu'il a pris la malédiction de pauvreté sur lui pour que nous devenions riches. Dieu veut que nous soyons riches. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois riche. Tu sais, c'est pas rien cette question. C'est pas un petit jeu de rhétorique d'un prédicateur. C'est une des raisons de la mort de Jésus. Jésus est mort pour prendre sur lui la malédiction de pauvreté afin que par cela nous soyons enrichis. Donc on n'est pas en train de parler d'un truc léger. On n'est pas en train de parler de quelque chose de « bon, simplement c'est un style ». Non, on est en train de parler des fruits de la mort de Jésus. Christ a payé pour notre pauvreté en souffrant sur la croix. Notre pauvreté l'a fait souffrir. Son sang a coulé pour que nous devenions riches. Son sang a coulé pour que Satan n'ait plus le droit de nous toucher, pour que quand nous faisons circuler de l'argent, mammon s'éloigne de nos vies. Que notre argent, notre or, notre cœur soit consacré au Seigneur totalement, délivré de toute influence de mammon, parce que l'argent se trouve au cœur de l'adoration. Et Jésus, le Fils de Dieu, a payé de sa vie à la croix pour cela. Jésus est né dans une étable de pauvres, mais Ésaïe 53:9 nous dit qu'il a été enseveli dans un tombeau de riches. Et je crois que réellement c'est quelque chose qui nous amène à voir Jésus autrement. Souvenons-nous, l'argent est au cœur de ce qui a motivé la crucifixion, la trahison de Jésus. Judas a trahi Jésus et Jésus a été estimé pour 30 pièces d'argent et le prophète Zacharie annonçait cela. Ils m'ont estimé 30 pièces d'argent, ils ont jeté cet argent dans le champ du potier. C'est le champ que va acheter Judas, là où il va se suicider après. Mais c'est 30 pièces d'argent. L'argent est au cœur même de la crucifixion de Jésus. C'est encore l'argent. Quand Jésus est ressuscité, vous vous rappelez? Il est ressuscité et les soldats disent, oh là là, je sais pas comment ça se fait, on a essayé de garder le terrain, mais on dit qu'il est sorti du tombeau, la pierre a été roulée. Alors qu'est-ce qu'ont fait les sacrificateurs? Ils sont venus les payer. Et ils ont dit, on vous paye. Et dites à tout le monde que pendant la nuit, pendant que vous dormiez, vous êtes assoupis, les disciples sont venus dérober son corps. L'argent a fait taire la bonne nouvelle. L'argent, qui est derrière ça? Mammon. Quelle est la mission de Mammon? D'utiliser toujours l'argent pour détourner les hommes de Dieu. Par la richesse, par la pauvreté, par les mensonges, par les pots de vin, par les trahisons, par ce que tu veux. Mais sa mission est d'utiliser l'argent comme un moyen de se détourner de Dieu. Et le Seigneur a racheté par la croix le domaine de l'argent pour utiliser l'argent comme un moyen de s'attacher à Dieu. C'est pourquoi dans les églises, au moment où on passe parfois les corbeilles, les gens sont un peu crispés, ils attrapent des coliques, commencent à être mal à l'aise, se tournent sur leurs chaises. On dirait qu'ils sont pudiques, comme si les personnes qui passent les corbeilles étaient dévêtues et on n'ose pas les regarder, etc., etc. Alors qu'en réalité, on est encore gêné. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé passer la rédemption de la croix qui vient ici pour nous donner une toute nouvelle relation avec l'argent. L'Église et l'argent, l'Église primitive vivait dans l'abondance, ils partageaient. Mais ce qui est quand même étonnant, vous savez ce qui s'est passé quand le Saint-Esprit est venu? Acte 2-4, ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues, le feu est venu sur eux, ils ont parlé de nouvelles langues. Acte 2-44, ils ont pris leurs biens, ils sont venus tout mettre au pied des dirigeants de l'Église pour dire « notre vie économique doit changer ». Il faut qu'on s'organise autrement. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, n'est pas simplement quelque chose qui te fait parler dans de nouvelles langues, mais la Pentecôte, quand le feu de Dieu vient, certains disent « je veux un baptême de feu ». En réalité, beaucoup, quand veulent un baptême de feu, ils veulent une expérience sensationnelle qui va les secouer pendant une heure et leur faire du bien, autant que quand ils prenaient une piqûre d'héroïne ou un joint de pavot ou une bonne cuite. En fait, c'est ça le baptême de feu que beaucoup demandent. Le baptême de feu, bibliquement parlant, les langues de feu sont venues. Oui, ils ont parlé dans des langues nouvelles pour donner gloire à Dieu, pour dire d'excellentes actions de grâce que les gens autour d'eux comprenaient. Mais aussitôt après, leur vie était tellement touchée qu'ils ont vu le cœur de leur adoration n'était pas à Dieu. Et ils sont venus avec ce qui représentait un obstacle. Mes richesses, mon argent, c'est ça ce qui me sépare de Dieu. Le feu est venu toucher jusque dans les racines même de leurs finances et de leur attachement à l'argent. Et la première église est une église qui, tout de suite, à la Pentecôte, est touchée au cœur de son adoration par les finances et toute la vie économique en est transformée ici. Je ne dis pas qu'il faut tous vivre en communauté, mais je dis que nous avons tous besoin que le Saint-Esprit nous touche dans notre attachement à l'argent, parce que c'est là le cœur de l'adoration. Et les premiers chrétiens prenaient soin des pauvres à ce moment-là, mais aussi des veuves. Les veuves, dans la première église, étaient inscrites sur un rouleau, c'est-à-dire sur un registre, et elles devaient se consacrer au jeûne et à la prière. Il y avait toujours des veuves dans l'église qui jeûnaient et priaient. Et il y avait les ministères, et que la Bible nous dit que les anciens qui dirigent bien soient soutenus sur tous ceux qui travaillent à la prédication, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur ou d'un double salaire. 1 Corinthiens 9, 14, « Car le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Galates 6, 6, « Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Et c'est pourquoi l'Église pouvait se développer. Et il y a des enseignements dans presque chaque épître sur la question de l'argent. Mais on va essayer de passer un tout petit peu plus loin. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé dans ta vie. Mais écoutez ce que simplement ces deux versets de Timothée nous montrent, pourquoi parfois on est ambigu avec les questions des finances. Premier passage de Timothée, 1 Timothée 6, écoutez bien là s'il vous plaît. « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Dans l'Église, on trouve ceux qui insistent sur ce passage-là. Attention, l'argent est dangereux. Oui, l'électricité aussi, pourtant tu l'utilises. Pourtant, l'électricité peut être mortelle si tu l'utilises mal. L'argent aussi, si tu l'utilises mal. Donc, il y a ceux qui disent, attention, l'amour de l'argent est racine de tous les maux. Attention, attention, quelques-uns sont jetés dans bien des tourments. Certains veulent s'enrichir. Pourquoi Dieu nous voudrait riches? Alors que Paul nous dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, etc. Mais regardez ce que le même Paul écrit à Timothée dans le même passage, quelques versets plus loin. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, par leur attitude de cœur. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre en Dieu. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Quand nous avons des riches dans l'église, ils ne sont pas là pour que tout le monde les dépouille. Ils sont là pour jouir de leur richesse en rendant gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des riches parmi nous. C'est la volonté de Dieu que nous devenions riches, qu'il nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Mais recommande-leur d'avoir la libéralité, de la générosité, s'amasser ainsi un trésor pour l'avenir. Vous voyez, ce passage nous dit à la fois, l'argent peut être dangereux, mais en même temps, Dieu veut que vous soyez riches. Et il voudrait pouvoir vous faire confiance au point de pouvoir vous libérer ces richesses. Il voudrait nous faire confiance à ce point-là. Et c'est pour ça qu'il y a quelques paroles qui nous mettent dans la confusion, l'ambiguïté, comme quand Jésus dit, « Ah, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Tout le monde cite cette parole-là. Alors comment, Philippe, tu peux dire que Jésus nous veut riches alors qu'il dit « Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Jésus dit ça dans un contexte d'un homme dont la richesse l'a éloigné de Dieu. C'est exactement l'influence de Mammon dont il parle ici. Cet homme riche voulait suivre Jésus. Et Jésus lui dit « Ok, mais ton problème, tu dois être touché dans le fond de ce qui fait ta valeur dans ta vie, ton argent. Donne ton argent. » Et il dit « Non, non, non. » Et il s'en va. Et Jésus dit « Il est difficile à quelqu'un qui est riche. » C'est pour ça que Dieu doit nous faire grande confiance pour nous rendre riches. C'est peut-être plus facile. Le test de la pauvreté est douloureux, mais combien moins difficile que le test de l'abondance. Alors on vit ça. Puis aussi, on a ce texte. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux, raffinés. Sa vie n'était que chaque jour festin et plaisir. Vous savez, le mauvais riche et le pauvre Lazare. Et ensuite, on voit que Lazare est dans le ciel et le riche est en enfer. Alors certains disent, ben voyez, Jésus a dit heureux les pauvres. Non, il a dit heureux les pauvres en esprit. C'est une attitude de cœur dont il parle. Les pauvres en esprit, ça veut dire être dépendant de Dieu. Mais comme on avait écouté dans le vidéo ici avec Reinhard Bonnke au mois de juin sur la résurrection, je ne sais pas si vous vous souvenez quand il nous disait « The rich man didn't go to hell because he was rich. The poor man didn't go to heaven because he was poor. The rich man went to hell because he refused Jesus during his life. » Donc, avec son accent un peu anglais-allemand là, The rich man didn't go to hell. L'homme riche n'a pas été en enfer parce qu'il était riche. L'homme pauvre n'a pas été au ciel parce qu'il était pauvre. L'homme riche est allé en enfer parce qu'il a dit non à Jésus pendant sa vie. Donc, ne soyons pas confus sur cette question-là. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des abus. Et nous sommes dans une terre ici, la terre, des terres catholiques. On a été plus abîmés sur cette question que beaucoup d'autres endroits dans le monde. Alors, peu à peu, dans l'histoire de l'Église, on a eu les abus, les indulgences qu'on appelait. Il y avait un homme qui s'appelait Tetzel, c'est son effigie ici. Tetzel, il disait ceci. Les indulgences, peut-être je vais vous dire ce que c'est on vendait les bénédictions. Donc on venait et puis on vendait le pardon, on vendait les dons spirituels, et il y avait même des périodes de solde. Il y avait même des ristournes. Le ciel vend moins cher ce mois-ci. Hein? Vous aviez les dons spirituels, vous aviez des périodes de pardon, et vous aviez aussi possibilité pour vos amis qui n'avaient pas marché vraiment avec Dieu, ou vos enfants, etc., ou vos parents qui étaient morts, et vous saviez qu'ils n'avaient pas marché vraiment avec Dieu, et comme ils étaient au purgatoire et qu'ils avaient mal, plus vous payez, plus vous diminuez leur temps en purgatoire. Et Tetzel lui passait, il disait, j'ai un tel ministère, une telle onction, dirait aujourd'hui, que quand la pièce touche le fond de la boîte, l'âme de la personne s'envole du purgatoire vers les délices du ciel. Imaginez combien, dans l'ignorance qu'il y avait à cette période-là, parce qu'on a interdisé aux gens de lire la Bible, et on comprend pourquoi. Parce que c'est la vérité qui vous a franchi. Si les gens avaient lu ce que l'Écriture dit, jamais ils auraient subi ce genre de choses-là. Mais on a été gavés de mensonges, gavés d'abus. J'en ai entendu, je vous ai dit, des histoires de pauvres veuves. Et hier soir, je lisais encore une. Un prêtre au siècle passé au Canada, Shiniki, peut-être certains ont lu son livre. Son papa est mort, le prêtre arrive et sa maman est là. Et le prêtre dit, écoutez, votre mari n'a pas eu une vie, le truc classique, n'a pas eu une vie comme il faut, vraiment, il est au purgatoire. Donc il faut que vous me donniez quelque chose. Mais mon mari n'a rien laissé. Oui, mais si vous laissez rien, il va souffrir au purgatoire. Ses souffrances sont pires que les vôtres en ce moment. Oui, mais il a juste acheté une maison avec l'argent qu'on avait. Il n'a même pas fini de la payer. J'ai même peur qu'on la vende. J'ai rien. Et puis il dit, si vous donnez rien, c'est que vous manquez de compassion pour lui. Vous savez, la culpabilité, c'est un truc horrible. Vous avez envie de le bouffer, ce curé-là. Je dis pas ça à tous les curés, mais quand on voit ça dans le passé, c'est un abus. On comprend pourquoi il y a eu ensuite cette révolte qui a plané ici. Mais je crois que le temps est arrivé où il faut qu'on sorte de ça. Néanmoins, je sais le poids, je comprends, je connais ces histoires-là. Je les ai subies, je les ai entendues. Et peut-être nos amis anglais ou autres qui viennent d'autres pays ne savent pas quand ils arrivent à quel point nos pays catholiques sont marqués dans l'inconscient collectif, comme on dit, de ce poids qui est là. Alors peu à peu, ce prêtre lui dit, bon, eh bien, c'est tant pis pour vous, mais vous êtes cruel pour lui, parce qu'il souffre. Et donc cette femme commence à pleurer, puis elle dit, écoutez, vous voyez la vache dans la prairie, c'est avec ça que je nourris mes enfants. Si vous la prenez, vous aurez tout pris, mais s'il faut la prendre pour qu'il ne souffre plus, prenez-la. Et le prêtre dit, très bien, il se lève, il va, il prend la vache et il part. Et le petit garçon, qui ensuite va devenir prêtre pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'il lâche tout ça, est révolté dans son cœur de l'abus et dit, mais pourquoi cet homme fait pleurer ma mère à ce point? Et ça, c'est pas juste sa mère qui a pleuré, notre mère collective, la France, l'Église, les nations qui ont subi ces mensonges, des indulgences, ces abus d'une fausse religion. Le catholicisme a bien bougé, il y a eu Vatican II depuis, donc comprenez bien, je ne suis pas en train d'attaquer l'Église catholique ou quelques prêtres que ce soit, il y a eu une réforme à l'intérieur de l'Église, donc ça, ce n'est pas la question ce matin, mais il y a eu des abus que nous traînons jusqu'à ce jour inconsciemment. Et je crois que le Seigneur veut nous libérer, nous guérir de cela, parce que ces abus nous font encore mal. Et c'est ça ce que les précurseurs de la réforme, les Wycliffe et puis les réformateurs ont dénoncé ensuite. La réforme a ramené après la valeur du travail et de la prospérité. Regardez tous les pays où sont partis les réformés, même de France, sont partis en Suisse, sont partis en Hollande, sont partis en Afrique du Sud, sont partis aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prospérité financière est venue. Parce que la vérité les a affranchis. Ils ont compris que la question de l'argent n'était pas une question. Dieu ne nous demandait pas de rester pauvres pour que le clergé s'enrichisse, pour que les gens abusent. Dieu veut chacun de ses enfants prospère, riche et généreux. Parce que lui-même est riche et généreux. Dieu veut pas que quand tu donnes, tu le fasses avec des mains crispées, des mains qui ont mal de donner. Mais il veut veux que tu le donnes avec joie, avec abondance, que tu sois capable de faire des actes de semence, que tu comprennes. On n'est pas dans ce mauvais match que vous avez vu tout à l'heure, où quelqu'un essaye d'épargner ses quelques euros dans son baptême, et l'autre essaye de manipuler le plus possible pour essayer d'en soutirer davantage. Non, on n'est pas dans ce match-là, on est dans autre chose, on est en train de servir ensemble notre Dieu, qui a un projet de nous rendre comme lui, qui veut voir chacun de nous comme étant un adorateur de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos finances, que tout ce qui est en nous vienne le servir. Nous sommes ensemble. Je ne suis pas là dans un rôle à essayer de vous soutirer quoi que ce soit. Je suis en train d'essayer de vous communiquer la vérité de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, qui est de nous rendre prospères, de nous faire connaître Dieu comme le Dieu riche. À lui la richesse, à lui l'honneur et la louange. Et quand nous commençons à prospérer par des moyens honnêtes de travail, Dieu va bénir le travail de nos mains. La réforme est venue, mais elle doit aller plus loin aujourd'hui. Elle a commencé, mais elle doit aller plus loin. Et déjà au XVIIIe siècle, John Wesley nous disait ceci: gagnez tout l'argent que vous pouvez, épargnez tout ce que vous pouvez, donnez tout ce que vous pouvez. Et c'est juste. Et c'est juste. Alors, pour que l'argent n'est pas un problème, vous savez, certains nous disent. L'argent, moi quand je parle, j'interroge les pasteurs et j'ai dit, si tu devais donner les trois plus gros problèmes pour le développement de ton église, c'est quoi? Je vous assure, l'argent est toujours dans le tiercé. Toujours. Mais certains disent avec des involtures, oh mais vous savez, l'argent c'est pas un problème. Moi je réponds non, c'est souvent une solution. C'est le manque d'argent qui est un problème. C'est le manque d'argent qui est un problème. L'argent est modérateur de tension. Et chez nous, même ici à Clé, tant de tensions auraient été enlevées s'il y avait eu plus d'argent. Il faut savoir ça. On est dans une bagarre pour ramener les richesses, pour ramener l'argent sous l'autorité de Jésus. L'argent est modérateur de tensions. Prenez un couple. Quand il manque vraiment de l'argent de façon continuelle, eh bien, il y a une tension plus grande qu'il faut savoir gérer, passer le cap. Mais l'argent est modérateur de tensions. On dit les églises françaises sont tendues. Mais une des choses qui fait la tension, c'est qu'on est tout le temps sur le fil du rasoir, sur la corde raide. On est toujours en train de faire le boulot de plein de personnes. Marisa travaille pour quatre. Je peux vous dire, je ne suis pas quelqu'un qui trouve que les gens travaillent trop. Parce que j'ai une capacité de travail qui est quand même au-dessus de la moyenne. Mais Marisa est exceptionnelle. Mais si Dieu ne nous avait pas donné une Marisa, vraiment, comment on ferait? Vous ne pouvez pas imaginer, j'en ai connu des gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais quelqu'un qui travaille comme Marisa, je peux vous dire, j'ai encore beaucoup de doigts en réserve sur la main pour les compter. C'est exceptionnel, quelle grâce, quel don de Dieu. Mais n'empêche, si on pouvait avoir plus de gens à libérer dans le ministère, ce serait indispensable. C'est pourquoi ramenons les dîmes dans la maison de Dieu, selon le modèle du roi de justice et de paix, Jésus, qui a servi selon le modèle de Melchisédek. Ici, c'est dans Hébreux 7. On ne va pas le détailler ce matin. Mon ami Pierre Cranga a écrit un livre il y a quelques années et il a dit, pour que les églises en France retrouvent leur prospérité, il faut qu'elles fonctionnent bibliquement. Ça veut dire que les dîmes doivent cesser de servir pour payer les bâtiments, payer le fonctionnement. Les dîmes doivent payer les ministères. Je dis bravo Pierre, c'est biblique, tu as raison. Mais comment on fait pour le reste ? Pierre, s'il te plaît, comment on fait? Tu as raison, bibliquement parlant, il nous a enseigné au milieu des pasteurs à Grenoble et partout, il a même écrit un livre, bibliquement parlant, les dîmes sont données pour les lévites, les ministères. D'accord, mais comment on fait pour le reste? Les fonctionnements sont si importants. Alors, avec les besoins locaux, la communication, l'entretien des bâtiments, la logistique, le matériel, l'évangélisation, le ministère parmi les enfants, les jeunes, la solidarité, le secrétariat, et j'en passe. On est obligé de prélever sur les dîmes, et on se trouve parfois dans une situation de pénurie, une insuffisance qui est pesante. Je crois que quelque chose doit changer. Pour qu'une église se développe sainement, je crois que nous avons besoin, je ne sais pas si on la voit la photo ici, en fait c'est une vision à cinq, vous savez, une longue vue avec cinq branches, et on pourrait dire, si on voulait jouer au Da Vinci Code, on pourrait imaginer chacune des branches comme un de nos cinq objectifs de l'Église, mais il nous faut un pasteur pour porter chacun des cinq objectifs de notre Église. Il nous faut peut-être un pasteur principal, mais ça, à la limite, on pourrait s'en passer d'avoir seulement un pasteur principal qui fait juste la vision, la coordination de tout et former les leaders partout ailleurs. On peut considérer qu'il peut faire ça et autre chose. Mais n'empêche, on a besoin d'un pasteur qui est là pour les relations, qui donne un sens de la famille. On a besoin d'un pasteur qui aide les conseils conjugaux, qui aide la préparation des enfants pour les baptêmes, qui donne les conseils d'éducation au niveau des enfants, qui fait les relations d'aide, qui aide tout ce qui fait la vie humaine. On a besoin de cela et qui forme les responsables des groupes de maison à le faire parce qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Mais on a besoin d'un pasteur qui fait ça avec du temps. Et pour ça, il faut le financer. Et pour qu'une église se développe sainement, il le faut. Il nous faut un pasteur pour la vie spirituelle. Je vous dis, ça fait une différence quand le dimanche matin, il y a un temps de prière ici quand il n'y en a pas. Ça fait une différence dans une église quand on sait qu'il y a constamment des personnes qui sont en prière parce que quelqu'un a le temps, et c'est sa responsabilité, de développer tous les départements de prière, tous les départements de louange et d'adoration, et des arts, et de tout ce qui concerne ensuite le développement de notre vie spirituelle, d'apprendre à chacun comment faire son culte personnel, d'apprendre de communiquer dans l'église cette vie spirituelle. On en a vraiment besoin. Et comme si nous n'avons pas ces pasteurs ensemble, on trouve en France des églises qui deviennent les églises des expériences spirituelles hyper charismatiques parce qu'ils ont un pasteur comme ça. On trouve des églises qui deviennent des familles parce qu'ils ont un pasteur qui est famille. On trouve des églises qui deviennent des centres de formation parce qu'ils ont un pasteur qui s'occupe de la formation. Mais on a besoin d'un pasteur de formation. Un pasteur qui va assurer non seulement la formation biblique de base, mais développer une stratégie de formation pour des classes différentes, des disciples, les classes pour les enfants même, des classes pour les nouveaux croyants, des classes pour ceux qui veulent se former au ministère et grandir avec le Seigneur, quelqu'un qui peut apporter des outils, des conseils pour le développement de chaque personne. Et je passe, un pasteur d'évangélisation. Nous en avons absolument besoin et nous l'avons. Mais merci au Seigneur pour les Anglais qui le soutiennent. Mais nous avons besoin que des églises saines en France aient ces différents ministères-là. Et je crois que c'est pour ça que la question de l'argent est au cœur de l'adoration et que c'est une question capitale aujourd'hui. Nous sommes dans un moment crucial dans la francophonie et en France dans lequel les églises vont devoir passer un cap, traverser ces défis, avoir des pasteurs qui équipent pour l'évangélisation, un pasteur du service, des bénévoles, quelqu'un qui aide chaque personne à découvrir ses talents. Vous vous souvenez le week-end qu'on a fait sur découvrir ses talents? Qu'est-ce qu'on a le temps de faire depuis? Rien. Pourquoi? Parce qu'on court de la formation à l'évangélisation, au coup de fil d'urgence parce qu'il y a un malade, il faut aller prier. On court comme des malades au lieu simplement de prendre le temps de développer nos objectifs parce que quelqu'un est là et a le temps de coordonner, découvrir ses ministères, coordonner les services, la gestion des bénévoles, qui peut travailler à l'organisation interne. On a besoin dans chaque église d'un administrateur pour gérer tout cela et d'un pasteur des jeunes. Parce que les églises sont en train de gagner des jeunes, mais les jeunes, on va pas les gagner si on fait juste un culte et qu'on met un peu plus de sono sur la guitare. On va les gagner si quelqu'un a le temps d'aller les voir, de vivre avec eux, d'aller dans les facs, d'aller dans les cafés, d'aller accompagner le jeune qui est en train de témoigner. Doit avoir un pasteur des jeunes qui est formé, qui est compétent, qui enseigne comment est-ce qu'on peut gagner les autres jeunes à Jésus. Et je bouillonne au plus profond de mon cœur pour voir une nouvelle épidémie d'églises qui vont se donner les moyens en francophonie de ne plus être dans la bricole, mais de percer aujourd'hui. Je sais que ce ne sera pas toutes les églises, mais il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous ici? Pourquoi pas se relever ce défi ici? Je crois qu'il y a un réel défi qui est devant nous. Alors pour le faire, il y a quelques jalons à poser. Mais il faut savoir, Dieu est la source ultime de provision. Les gros dimeurs ont déjà quitté l'église plusieurs fois. Et j'ai toujours vu, les dimeurs c'est un mot québécois, pardon, les gens qui donnent les plus grosses dîmes, ont pu quitter l'église, mais j'ai vu une chose, Dieu est toujours la source de notre provision. Vous savez quoi? Quand les gens quittaient l'église, les dîmes ne bougeaient pas. Et ce n'est pas parce qu'ils ne donnaient pas, c'est parce que Dieu est notre source. Et ça, c'est que mon assurance, elle est là. C'est pourquoi je ne veux pas faire simplement juste du petit compromis, comme j'ai vu certains pasteurs dire, « Ah mais lui, je sais qu'il n'est pas droit, mais si je dis quelque chose, il quitte l'église, s'il quitte, il emporte un dixième de nos finances, tout est menacé. » Je ne joue pas à ce jeu-là. Parce que Dieu est la source ultime de notre provision, n'est-ce pas? La générosité fait partie de la sainteté et nous devons lui ressembler. Apprendre à être généreux, apprendre à être généreux. On ne veut pas regarder si tu donnes la dîme à l'euro près, mais apprends à être généreux. Dans les circonstances justes, j'ai vu que les gens aiment donner. Ça, c'est une chose que j'ai vue. J'ai vu que vous aimez donner quand vous avez compris pourquoi. Et je vous remercie pour ça. J'ai vu qu'on a fini ce match des pasteurs qui essayent de soutirer de l'argent et des gens qui essayent de s'en défendre. On a fini ça à clé. On est en train de finir. On est dans un tournant. Et je sais que les gens aiment donner. Le manque d'instruction dans le domaine financier est fatal. Et je veux simplement, certains parfois me disent, mais comment est-ce qu'on donne? On donne quoi, à qui et comment? Dans l'église de mon ami à Poitiers, un jeune converti est venu. Et puis, il a entendu qu'il fallait donner la dîme. Et au bout de quelques mois, ça faisait, je sais pas, 4, 6 mois, 8 mois qu'il était là. Il était trouvé un de ses amis pour lui dire, tu arrives toi à vivre avec 60% par mois? Ça fait 8 mois, je trouve, c'est quand même énorme. 60%, pourquoi? Ben, il dit, parce qu'on donne 10% à l'église. Il dit, ben oui, ça fait que tu vis avec 90. Ah, mais non, mais il y a 4 dimanches. Donc le gars donnait 10% de ses revenus mensuels chaque dimanche. Donc si vous voulez, quand j'entends ça, je dis, bon, il faut juste que de temps en temps nous soyons clairs sur qu'est-ce qu'on donne, comment et ça sert à quoi. Donc, grossièrement, si vous voulez, schématiquement, il y a trois sortes de dons. On donne la dîme, on donne les offrandes et on donne les aumônes. Et on mélange pas. La dîme n'est pas remplacée par les aumônes ne sont pas remplacées par la dîme. Tu peux pas dire, Seigneur, je te donne pas l'argent qui te revient parce que j'ai donné aux pauvres. Et tu peux pas dire aux pauvres, je te donne pas parce que moi j'ai déjà payé ma dîme dimanche. C'est des choses différentes dans l'école de générosité. La dîme revient à l'église locale pour les ministères. Normalement, ici on le fait, il y a pas tout à fait un tiers qui revient pour les ministères, ou c'est autour d'un tiers. Le reste, ça part pour tout le fonctionnement, et on en est là aujourd'hui. Les offrandes, c'est pour les projets, la mission, les bâtiments, etc. Comment est-ce qu'on donne? La dîme, c'est 10%. Les offrandes, avec foi, avec générosité, que chacun mette dès le premier jour à part, et Dieu aime celui qui donne avec foi, avec joie. Et les aumônes, c'est ce que tu donnes aux personnes en difficulté, c'est pour la solidarité, tu donnes ça avec joie et compassion. Donc, on donne quoi? On donne à qui? On donne comment? C'est ça. Il y a trois sortes de dons pour les généreux bibliques, pour les personnes qui sont enfants de Dieu, qui veulent apprendre. L'ignorance, dans ce domaine-là, n'est pas bonne pour personne. Pour tous ceux qui veulent des notes, si vous voulez, je vous envoie mes notes ou je vous donnerai mon PowerPoint. Nous ne donnons pas pour combler les besoins, mais pour accomplir une vision. Ce matin, on l'entendait de la part de Greg, et c'est vrai. Donner les besoins, c'est pauvre comme vision. Juste, c'est comme si on était un club, puis bon, ben, faut bien faire tourner la boutique. Faut bien donner, parce que sinon, le toit va s'effondrer. T'avais bien raison de le dire, ici en tout cas. Mais faut bien donner, parce que sinon, ben voilà, ça va être moche. Mais c'est plus que ça. Dieu veut plus que simplement qu'on donne pour entretenir notre club. Il a une vision bien plus large que ça. C'est une vision, ce matin, je suis en train de vous dire, on doit donner pour avoir 7 ministères à plein temps. Et je voudrais bien que vous disiez pas, oh, ça c'est encore le rêve de Philippe qui est totalement impossible. Je vous dis que c'est possible même dans les pays francophones. Je vous dis que c'est possible, mais que ça commence par notre vision des choses, par un changement de mentalité. Si tu commences à le voir comme possible, à le désirer comme possible, on va le voir se réaliser. Pourquoi est-ce qu'il y aurait que dans les églises du monde anglophone, à part 2-3 exceptions, pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'en Afrique, au Canada ou ailleurs, qu'on verrait ces choses commencer à poindre aujourd'hui? Pourquoi en France on ne le verrait pas? La France a aussi besoin d'églises puissantes qui font la différence, et nous avons besoin pour cela de mettre nos finances. Et le jalon à poser, c'est qu'il y a des gens qui ont reçu le don spirituel de générosité. Et moi, je veux vous dire, exercez ce don au maximum. J'ai encore jamais vu quelqu'un arriver avec une brouette d'euros ici au culte. Mais si quelqu'un veut le faire, c'est permis comme un bel acte de louange. Ça fait partie de la créativité, de l'art, si vous voulez. Vous pourrez venir ici avec une belle brouette, et si vous préférez un bulldozer ou un semi-remorque, laissez-le sur le parking. Par contre, je crois ceci. Écoutez, mes dons dans le Seigneur sont peut-être pas immenses, sont peut-être pas grandement diversifiés, mais je sais que j'ai un don de prédication, de communication créative, etc. Je vous assure, franchement, je suis franc avec vous, écoutez bien, mon cœur vous parle. Je fais le mieux que je peux pour vous donner le mieux que je peux. Je peux vous dire, je peux passer ces messages-là, je ne compte pas le nombre d'heures passées dedans pour essayer de le rendre un peu digeste, parce que en réalité, c'est un séminaire de 22 heures que je suis en train de vous donner en 3 quarts d'heure, en 50 minutes. Donc, pour le rendre un peu moins un pudding de béton, j'essaye de faire le mieux que je peux pour que ce soit... Mais je m'y donne, je vous assure, jour et nuit. Il y a une nuit, j'ai dormi 3 heures parce que ça me travaillait, je me suis levé, je travaillais dans... Et je ne dis pas ça pour être plein, pour que vous disiez, on a un bon pasteur. Je dis ça parce que voilà ce que je veux dire. Moi, j'exerce mon don le mieux que je peux. Je trouve que l'équipe de louange, Rodrigue en particulier, avec tout le boulot qu'il a, etc., exerce son don au niveau de la louange le mieux qu'il peut. Il donne tout ce qu'il a. Eh bien, ce que je demande, c'est comme Rodrigue le fait pour la louange, comme je le fais pour l'enseignement, si tu as le don de générosité, je te demande de l'exercer le mieux que tu peux. C'est pour ça que je parle de brouette ce matin. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu des brouettes. On n'a même pas vu des petits sauts de plage. Il y a quelque chose de plus qui doit passer ici. Pourquoi ? Parce qu'un don spirituel, c'est un don spirituel. Dieu nous l'a donné et nous rendrons compte de la façon dont nous avons utilisé le don que Dieu nous a fait. On va arriver à la fin maintenant. Il y a deux catégories de gens, nous dit Rick Warren. C'est l'avant-dernière, je crois, l'avant-dernière diapo. Ensuite, on va regarder un dernier reportage. Puis on aura notre moment de prière. Deux catégories de gens. Ceux qui bâtissent le royaume et ceux qui amassent des richesses. Il y a ceux qui savent faire fructifier une affaire, acheter, vendre, faire des bénéfices. Ceux qui amassent des richesses, gardent leur argent pour eux. Ceux qui bâtissent le royaume gagnent le plus d'argent possible. Vous voyez, je parle ici, ils ont un don de gagner de l'argent, un don de Dieu. Tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous savons faire, c'est à la gloire de Dieu. C'est afin de le donner pour l'église de Dieu et sa mission dans le monde, nous dit Rick Warren. Et il nous cite son église à Saddleback. Nous avons un groupe de PDG et de chefs d'entreprise qui essaient de gagner le plus d'argent possible afin de donner le maximum profit du royaume de Dieu. Une église n'atteindra jamais son plein potentiel jusqu'à ce qu'un fleuve de ressources coule vers elle, nous dit Bill Hybels. Et je crois que c'est vrai. Clé à une vision, à un appel. Mais aujourd'hui, il faut qu'une source de provision divine, de finances, un fleuve de ressources doit couler vers Clé. Il faut que l'on voit cela. C'est un défi pour nous, mais on doit le voir. Et je voudrais vous dire ceci, je crois que nous avons des personnes qui de temps en temps font des actes héroïques, et béni soit Dieu, des offrandes exceptionnelles. Si, comme cette veuve dans 1 Roi 17, cette veuve, Élie vient la voir, elle dit, tu sais, je n'ai que ça, je n'ai plus que cette farine. Élie répond, fais-moi un gâteau, fais passer Dieu d'abord, et Dieu va multiplier, et le miracle se fait. Moi, c'est ça ce que j'appelle un acte héroïque. Elle a donné énormément, au-delà du raisonnable. Il faut vivre comme des sages, mais poussé par Dieu, de temps en temps, faire des actes de folie. J'ai ici le témoignage, je ne le lirai pas parce qu'on est un peu en retard, d'une jeune fille qui est dans notre église au début de l'année, au moment du jeûne et du camp d'église, a été amenée à donner une somme d'argent qu'elle savait qu'elle devait donner, mais qui était une grande somme. Elle m'a écrit son témoignage ce matin, je l'ai là. Et ensuite, elle l'a fait par obéissance à Dieu, en sachant qu'elle donnait tout ce qu'elle avait, même au-delà de ce qu'elle avait. Mais elle a donné ce qu'elle n'avait pas encore. Dans la foi, elle savait que c'était un acte de folie, elle ne peut pas faire ça chaque semaine. Mais en rentrant chez elle, quelqu'un, le lendemain ou le jour même, je ne sais plus, non, pendant le week-end, quelqu'un avait déposé dans sa boîte aux lettres un chèque, exactement la même somme que celle qu'elle venait de donner. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le jeu. C'est ça le but du jeu. Avec Dieu, c'est comme ça. Il nous exerce à dire, vas-y, fais-le, tu vas voir que je suis derrière. Et pourquoi il a mis la même somme ? Juste pour le dire, c'est signé. Elle a dit, la personne n'avait pas signé. C'était hasard. C'est le nom que Dieu prend quand il veut rester inconnu ou anonyme. Et c'est vrai. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est puissant. Est-ce que seulement les musulmans pourraient recevoir du financement pour les mosquées, leur djihad ? Ou est-ce qu'on va voir aussi des bailleurs de fonds pour l'église ? Pour moi, cette question-là, elle est capitale, avec un K, comme diraient les Allemands. Et il y a des actes héroïques. Il y a des gens qui n'osent pas dire ce qu'ils ont fait, mais certains, ici, je vous ai poussé un petit peu dans vos tranchements, on va écouter le témoignage de deux personnes sur une vidéo maintenant, qui ont fait des actes héroïques, mais il y en a d'autres. Je me souviens d'un couple, au moment où on est venu ici, qui a donné 10 000 francs, c'était en France ce temps-là, et c'était pour eux une grosse somme, et on avait demandé que tous les équipiers fassent l'acte de foi de 10 000 francs, sans quoi on ne serait pas là aujourd'hui. Je vous dis, ce bâtiment existe, vous êtes assis où vous êtes aujourd'hui parce que certains ont accepté à un moment donné de faire des actes de folie dans la foi, poussés par Dieu, et nous en étions. Et ce matin, on va encore faire un acte de folie avec ma femme, mais je crois, et c'est vraiment de la folie si je regarde mon compte en banque en ce moment, mais je crois que mon Dieu nous appelle à ce jeu de sainteté, de devenir comme lui. Alors si on peut envoyer. Fabienne me disait, en même pas 6 mois, suite à ça, il y a un déblocage, même pas 6 mois, on a fait le chiffre de ce qu'on n'avait pas fait l'année avant. Et vraiment, Dieu est celui qui nous bénit. C'est le moment de prière maintenant, le moment de décision pour nous. Peut-être c'est un moment où, si je n'ai pas encore décidé de donner la dîme, pourquoi ne pas le faire ce jour ? va le faire, on va se lever ensemble et puis on va simplement répondre chacun. Et ici devant, il y a des corbeilles. Et ceux qui veulent simplement prendre un engagement avec Dieu, vous allez venir devant. Et ce matin, le ministère va se faire juste en donnant une offrande à Dieu. Et comptez que le Seigneur vienne vous toucher. Comptez que le Seigneur vienne vous toucher ce matin puissamment. C'est un chant qui dit « Today I choose to follow you ». Aujourd'hui, je choisis de te suivre. Aujourd'hui, je choisis de te servir. Aujourd'hui, je prends une décision capitale. Et le texte va dire ceci, « Si je n'ai jamais encore décidé de donner la dîme, pourquoi ne pas le faire ce jour comme un jour capital dans ma vie ? Si j'étais appelé à faire une offrande, tu sais déjà que le Seigneur t'a demandé de faire une offrande. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, il y a une personne ici, c'est 1 200 €, le Seigneur t'a déjà parlé pour ça et tu lui as demandé, « Seigneur, si c'est ça, il faut que ça se reçoive une confirmation directe avec la somme. » Et le Seigneur te confirme, c'est 1 200 € que tu dois donner. Tu ne les donnes pas parce que je le dis, tu le donnes parce que le Seigneur te l'avait déjà dit et tu as déjà demandé une confirmation. Je ne suis pas du tout en train de manipuler qui que ce soit, je suis juste en train d'être l'instrument de Dieu pour la personne qui a demandé une confirmation. Ensuite, si je demandais à Dieu comment je peux contribuer pour l'accomplissement de cette vision ici à Clé, je pourrais faire peut-être une offrande spéciale régulière, c'est-à-dire... Et si je venais faire une promesse de don, peut-être certains vont venir ici, vous allez mettre dans les corbeilles, il y en aura 3, une promesse de don, un papier ou un chèque, et au dos vous mettez, je sais, je crois que pour l'accomplissement de cette vision, au-delà de ma dîme, je vais m'engager à donner chaque mois, alors ça peut être 20 €, ça peut être 100 €, ça peut être 1 000 €, je vais m'engager à donner chaque mois pendant 1 an, à compter de ce jour, jusqu'au camp d'église de l'année prochaine, je vais m'engager à donner au-delà de ma dîme cette somme-là. C'est comme un engagement qui fait que tu sais que tu veux contribuer pour la vision. On entendait Greg tout à l'heure nous dire, il faut qu'on ait des finances en proportion, en fonction de notre vision. Et enfin, si j'ai le don de générosité, pourquoi ne pas prendre cette décision capitale ? Je vais exercer mon don, autant que le pasteur pour enseigner, autant que Rodrigue pour la louange. Donc je vais juste lancer la musique, on va se lever, prier, puis juste on va s'avancer. 3 corbeilles, vous venez mettre un chèque dedans, que vous preniez cet engagement ou pas. Venez offrir un chèque, c'est pour les bâtiments. On m'a dit qu'il y avait eu des explications, des sommes qui étaient données ici. Ce matin, je n'y étais pas, mais vous l'avez vu pendant des semaines ici. Donc, ce qu'on va donner pour le toit, ce qu'on va donner pour l'électricité dans l'église, ce qu'on veut donner pour avoir un bâtiment conforme, des choses sont en train de bouger, mais on veut continuer et on voudrait aussi voir se libérer des ministères. On sait qu'il y a quelque chose, quand on va finir ce bâtiment, enfin, on va pouvoir enfin libérer quelque chose au niveau des ministères. C'est pourquoi ce matin, on veut faire une percée. Alors, levons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te demande de venir par ton feu. Au moment où on va faire ces chèques du Giving Day, Seigneur, touche-nous, libère nos vies, que l'argent te revienne et que notre adoration te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc, 2 choses différentes ce matin. On peut faire un chèque ou donner de l'argent ici dans les corbeilles, les 3 corbeilles qui sont là. Et on pourra le faire, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est tout au long de ce mois. On laissera les 2 corbeilles tout au long pour le Giving Day. On demandera... les équipes de secrétariat de marquer Giving Day pour le bâtiment, comme ça on sait pourquoi on est en train de donner. Et on affichera également au fond de l'église la somme qui est demandée et là où nous en sommes semaine après semaine pour que nous sachions ce qu'il reste à payer, de façon à ce qu'on sache où l'on va. On vous demande de donner, vous avez le droit de savoir. Donc ça c'est le premier acte, de donner ce matin pour le Giving Day. Le deuxième, c'est que simplement si je sais que je dois faire un pas avec Dieu pour l'adoration, bien, je vais aussi m'avancer, non seulement avec mon chèque, mais répondre à Dieu ici. Amen. Saint-Esprit, merci. Agis ce matin, Seigneur. Mon Dieu, viens, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, je choisis de te suivre.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.